maritales, etc., parce qu'il fallait que les gens puissent aussi vivre, aussi souffler. Mais il arrivait alors que, tu vois, il arrivait même souvent que, même pendant à l'occasion, pendant la nuit et autres, il y avait un baisage dans un coin, etc. Et ça donnait lieu également à des femmes enceintes. Mmh. Alors, toutes les femmes se mettaient ensemble pour retrouver les moyens pour faire passer le gosse. Tu vois. Alors, il y avait toute cette solidarité entre femmes, trouver les sages-femmes, trouver les moyens. Je vais te l'avoir dit, j'avais un ami au Charmy, qui était au tilleur, et qui, la plupart de son temps, il l'utilisait à faire des sondes pour faire avorter les femmes. Tu vois. Il s'était spécialisé un peu dans ce genre de boulot. C'est un de ceux qui m'a formé, Damien. Alors, tu vois, c'est un peu, effectivement, c'est pas assez explicite, mais c'était pas le propos. De...
Non, non.
Hein?
Non, non.
Mais quand, ça
va bien.
Mais enfin, tu vois, quand on est étonné de mon attitude réservée à l'égard des femmes ou autres, c'est que je connais quand même un peu trop de choses, trop de la vie, etc. Mais j'ai un profond respect pour ces femmes qui se sont battues quand même. Il fallait s'adapter dans cette vie. Même les femmes de nos mobilisés suisses, n'est-ce pas, qui étaient vraiment dans la difficulté, puis qui trouvaient encore le moyen, avec les quelques sous qu'elles pouvaient recevoir, d'envoyer encore de l'alimentation à leur mari.
De la journée sanglante de Grange que tu donnes, quelles sont les sources que tu as pour la donner? Comment tu l'as reconstituée?
Tous les témoins oculaires, tu vois, tous ceux que j'ai pris contact, ou enfin que j'étais en contact.
Sur place, à ce moment-là, quand tu avais 16 ans, tout de suite, tu demandais aux gens qu'est-ce que c'est.
Oui, et puis j'étais dans l'immédiat, j'étais dans l'ambiance, tu vois, dans cette période de disons là, d'écrasement, cette période un peu de terreur. Il y avait quand même des morts, il y avait encore des... Après, il y avait des perquisitions, des poursuites contre des ouvriers étrangers, etc. Et tout cela, n'est-ce pas, ça n'a pas été... Dans le fond, il y a une sorte de d'entendre tacite de ne pas trop parler de ces événements. Donc, ça n'a pas été... C'est un événement historique, mais qui n'est pas un élément glorieux pour tout le monde. Pour les syndicalistes, c'était des grévistes honteux, tu vois. Pour les bourgeois, ils avaient été trop forts, et ils avaient dû reconnaître leur faute. C'est ce qui fait qu'au cours des années, on a pu réaliser des postulats d'intérêt général. Alors il y a une sorte d'entente tacite de donner le moins possible de renseignements. Je n'ai pas tout lu la documentation sur la grève générale, surtout chez les Allemands, les Suisses-Allemands, et je sais pas comment ils ont retrouvé tellement leurs documents. Ils se sont surtout basés, je crois, sur Zurich en particulier, qui était particulièrement actif, où il y avait d'ailleurs les hommes de pointe. Mais de ce qui s'est passé dans les régions, on a peu de choses. Quartier Tripoli était un quartier qui était le quartier de baraquement des ouvriers qui faisaient le percement du tunnel du grand Jmoutier. Uh-huh. Et alors il y avait là des Italiens et des Turcs, et c'était au moment précisément de la guerre de Tripoli.
et de la guerre de Tripoli, où les Italiens chassèrent les Turcs de la Cyrénaïque. Et voilà.
Alors ça s'appelait Tripoli. Et toi, qu'est-ce que tu avais à faire dans ce quartier?
Alors, j'allais livrer du pain, mais plus exactement, j'allais vendre le pain rassis le soir, le pain que la boutique n'avait pas pu vendre, ou bien un pain qui avait été, des fois ça pouvait arriver, ou des pains oubliés, ou des fournées de pain qui n'était pas assez élevé, ou pain brûlé. Alors on m'envoyait le soir faire la prospection pour la vente de ce pain. Et alors, ces baraques, par exemple, qui étaient pleines de punaises et routes, périodiquement étaient plus ou moins nettoyées, mais avec des tapisseries faites de journaux. On tapissait avec des choses, donc c'était des trucs invraisemblables. Alors, tu vois, je vivais dans ce grouillement de gens, n'est-ce pas? Entre Turcs et Italiens, il y avait souvent d'ailleurs des bagarres, mais le tunnel était déjà terminé, n'est-ce pas? C'était la fin de ce qui était resté. Voilà.
D'accord.
C'était le restant des baraquements des émigrés italiens ayant construit le tunnel du Grand Goutier.
Des matériaux qui avaient été ressortis du tunnel.
Déclenché le 12, mais parfois il a duré plus longtemps dans les entreprises et autres, mais surtout il y a eu toute une période, disons, d'après-grève, et qui faisait justement cette période de la grève générale. Tu vois, il y a eu une journée sanglante comme le 9 novembre, etc. Mais, par exemple, le 9 novembre, plusieurs jours après, c'est parti, somme toute, rapidement, puis l'agitation quelques jours avant, la soirée sanglante, mais ensuite, il y a eu toutes les répercussions. C'est pas les arrestations, les expulsions, etc. Mmh. Alors, il faut d'une part parler, mais... l'ancien maire de la ville de Genève, ouais. Qui était devenu, c'est une sorte de radical socialiste, tu sais, depuis, il m'avait pris à la bonne parce qu'on était administrateur ensemble à la coopérative de consommation. Alors il m'a expliqué un jour ce qui s'était passé avec lui. Il avait participé, lui, à l'armée, et avec ceux qui avaient tiré, parce que les Vaudois avaient besoin d'un trompette, ils n'en avaient pas, ils avaient emprunté ce trompette aux Genevois, et c'est lui qui a donné les sommations. Et il a même été très loin, parce qu'il m'a dit oui, on défilait, etc., et puis il y en avait un particulièrement agressif, etc., qui nous parlait l'italien, lui donnait ça avec un sens évidemment un peu xénophobe, évidemment c'est un citoyen soldat vis-à-vis d'étrangers qui venait du quartier de Tripoli par là-haut. Et alors il a dit celui-là, attends, je le retiens, etc. Et, quand on est revenu à notre tournée, et alors il y a un de ceux qui a été fusillé.
Mais rétrospectivement, comment il parlait de tout ça? Alors il regrettait tout ça ou...
Non, il était resté soldat, il avait fait
son
devoir, fièrement. Il était trompette. Il était fier quand il était trompette. comme porte-drapeau. Oui, mais alors il me disait même que qu'ils avaient piqué le type qui les avait insultés. Et le jour de la journée sanglante, puis je continue, j'ai des contacts avec des gens qui me racontent les événements, etc., ou pour mon travail, etc. Et ça dure une année. Et puis, au bout d'une année, il y en a marre, et je fais la fugue. Pourquoi il y en a marre ? Ben, parce que mauvais traitement, trop de travail, enfin les conditions de travail étaient insupportables.
Et pendant toute l'année, les rapports avec les gens, ils portent sur quoi ? Tu dis ça dure une année.
Oui, j'entends, je travaille.
Ah, je travaille pas une année où on parle tout le temps de la
grève. Non. Je travaille normalement pendant une année. J'apprends mon métier pendant une année.
T'as appris l'allemand ?
Très, très peu.
Charles de gamin.
Très, très peu. Et puis, comme j'étais dans une famille de Belges, tu vois, où l'on n'aimait pas les Allemands, puisque les Allemands les maltraitaient, hein, puisque c'était des gens qui avaient été expulsés à la suite de la mort du père, toute la famille avait été envoyée dans leur commune d'origine.
Tu diras ça hein, dans la note que tu fais.
Ah, je ne sais pas si je
l'ai dit. Non, tu l'as pas dit.
Ah, tiens, oui, c'est peut-être pas mal. Imagine-toi, le père était un chrétien fanatique. Peut-être qu'il pense à l'anabaptiste, c'est dans ces sectes du Jura. Et il turbine comme un enragé, et il fait 17 enfants à sa femme, qui est une jeune voix d'ailleurs. Et il meurt à 46 ans. Tu vois ça ? Il s'était tué à la tâche et à faire des enfants. Il avait même réussi, malgré tout, à faire d'économie et de travail, parce que des horlogers, ça travaillait jour et nuit, n'est-ce pas ? C'est ça. Parce qu'il travaillait d'une part à l'atelier, puis ça faisait travailler encore le soir. Alors il avait même monté sa petite maison. Puis quand il est mort, il y avait toute une ribambelle de gosses. Alors, en vertu de la loi, ils sont tombés à l'assistance. Ils ont vendu la commune, a vendu la maison. Puis ils les ont expédiés conformément à la loi et à la constitution de l'époque. Ils les ont envoyés dans leur commune d'origine. Et ces gens-là, ces Belges, tombaient, ne parlant pas un mot d'allemand, tombait en plein dans un milieu alémanique germanophile. Alors c'était un drame, quoi. Et à côté de ça, qu'ils étaient théoriquement une famille d'assistés, quoique là, il y a assez rapidement, les enfants ont été repris dans les usines, il y avait de la place pour travailler, etc. Ils n'avaient plus besoin d'assistance, mais ils étaient quand même des étrangers au pays. Alors ils ont été maltraités de toute façon.
Et il n'était pas question de revenir à Genève pour eux, quand ils ont trouvé un peu de travail, un peu d'argent.
Il n'y avait pas de raison de venir à Genève. D'abord, il y avait la famille, je peux dire la mère a tenu à coup sa tribu bien, il y a eu des morts, il y a eu la grippe à ce moment-là, justement. Ils ont eu, je crois, 5 morts. Même davantage, je crois, 7 morts il y a eu dans la famille. À l'époque, il y a eu une des filles avec son enfant et puis elle était enceinte. Les trois sont morts, plus les grands garçons. Bon, c'était quand même à l'époque, hein, c'était choléra, la peste.
Et ta femme dans la famille, elle était au milieu ou...
Ah, elle était vers la fin. Il est venu. Oh non, il y avait
après ma femme, elle avait une année de différence avec, avec son frère, que j'ai connu. Et puis après, je crois qu'il y en avait trois encore.
Simplement, je vécus la grève générale à Granges, et à l'époque, je n'eus pas ou que très peu connaissance de ce qui s'était passé au niveau suisse. Ou si c'est vrai, j'en sais rien, parce que oui, ça, c'est encore pas très clair dans ma tête.
Non, pas du tout. C'est pas, hein?
Alors, je crois que c'est important qu'on montre bien, qu'on n'oublie pas, parce qu'on parle de la grève de Granges, qui a eu la grève générale en Suisse, mais c'est important qu'on dise que bon, ben, ça n'a pas existé pour toi à ce moment-là.
Tu t'es battu. On se foutait de moi, tu comprends. J'étais un bon à rien, parce que comment toi, Suisse, tu viens faire ce sale métier-là, tout aussi bien dire que tu nous prends une place, pour ainsi dire, alors que tu pourrais être un fonctionnaire ou même un flic. Tu comprends, Aîné ? J'étais mal vu, précisément. Et j'ai pu m'en sortir parce qu'il se trouvait un type particulièrement bien, qui était celui qui avait fait la peau, un ancien contremaître qui avait construit le bâtiment électoral. Moi, j'en ai connu trois de bâtiments. Il y avait la boîte à gifles qui a été démolie, puis qu'on a reconstruit le bâtiment électoral où il y avait la statue et les propos de, non pas la statue, mais les propos de Jean-Jacques Rousseau en exergue. Mon père m'a dit, Jean-Jacques, tiens ton pays, etc. C'était son exergue. Et c'était monté en pierre de taille, et il y avait là un très bon contremaître qui était un nommé Pommel, qui était un Suisse, et j'ai eu cette chance de travailler, par exemple, pour l'entreprise Rubin, où on m'a mis avec le chef poseur, qui était devenu vieux, un peu buveur, un peu cossard, et qui me foutait tout sur le dos pour me débrouiller pour les pierres, parce que l'entreprise Rubin a été la dernière entreprise à poser des pierres de taille comme encadrement de fenêtres, etc. Parmi d'autres choses. Mais j'ai travaillé, quand on a construit à la queue d'arbre un bâtiment qui existe encore de l'entreprise Neff, de parfums, c'était un bâtiment un peu spécial, le toit était en béton, un toit à quatre pans en béton, et qui était assez difficile. Et il a fallu me battre, par exemple, et risquer de bazarder un type. On avait des outils dans les mains, passer un type par sur le toit, là, parce que je m'emmerdais, parce que j'étais suisse. C'était ça, la xénophobie à l'époque.
Mais toi, tu, de ton apprentissage de boulanger, pourquoi, tu as essayé d'en faire quelque chose ou t'as...
Non, j'ai essayé d'abord, c'était versatile, il y avait du chômage. À côté de ça, on travaillait dans des conditions beaucoup moins favorables que celles où j'avais fait un apprentissage. C'est encore des vieux fournis, des trucs assez moches, mais surtout c'était les horaires. Les horaires qui ne jouaient, on commençait à 4 heures du matin. Alors je faisais des réunions le soir de militants, etc. Mais il fallait m'en relever, j'habitais Carouge, pour revenir travailler à la rue du Cendrier ou au Mollard. Ben, il fallait me lever tout à ça à 3 heures du matin. Quoi. La vie était plus possible. C'est comme ça que petit à petit, j'ai abandonné ce métier. Hein. J'ai abandonné en même temps le métier parce que mon premier syndicat était le syndicat de l'alimentation où Rosnay était secrétaire. Nous étions à l'époque au chalet suisse où il y a maintenant
le Moulin Rouge. C'était mon premier métier, mon premier syndicat.
Et lui,
il était secrétaire de l'alimentation.
Mais il ne bossait pas du tout dans ce secteur-là, mais il était secrétaire.
Ah oui, parce qu'il était secrétaire. Je crois qu'il avait travaillé, pour le secrétariat socialiste suisse, je crois, ou quelque chose semblable. Puis il est venu à Genève. Et puis bon, là aussi, il fallait faire quelque chose, quoi. Je pense qu'il avait été un peu délégué pour venir à Genève. Bon, la situation était difficile parce qu'il y avait eu la scission, il y avait Charles Naine qui était en difficulté. Enfin bref, quoi, il y avait eu peut-être des arrangements, quoi. Alors on l'avait mis à la Fédération de l'alimentation. Traité, là. Oh, il a toujours été un peu dans les nuages, comme ça, tout, hein, il était...
Très mystique, hein, un peu.
Oui, tu sais, c'est pour être un peu confus, quoi.
Les bouddhistes, c'est fou, hein, c'est... Ça m'a frappé qu'en lisant ces trucs, visiblement, il n'a jamais entendu parler.
N'est-ce pas dans la fédération? Il y a donc une fusion. La fusion a été faite d'abord en 1922-21 avec les métiers du bois, et puis un petit peu, quelques mois plus tard, c'était la fusion des métiers du bâtiment, et on a fait la fédération des ouvriers du bois et du bâtiment. On a mis le bois en premier, parce que les dirigeants de la fédération étaient des Suisses allemands, et où il y avait une majorité de bois dans l'ouvrier sur bois dans la fédération. Et il y a toujours eu une certaine tendance, parce qu'il y avait des Suisses allemands parmi les ébénistes particulièrement, il y a toujours eu une tendance de la période 1918 pro-communiste assez active dans le syndicat du bois, ce qui fait qu'il y avait toujours des tiraillements entre les dirigeants de la section du bois, les ouvriers sur bois, et de la section du bâtiment que je représentais. Et puis à un moment donné, il a fallu faire un changement. Un camarade est parti, un des secrétaires est parti en Suisse allemande, il était fatigué de la vie que je leur ai menée avec les grèves ici à Genève. Il s'est planqué au secrétariat central, et il s'agissait de le remplacer. Or, entre-temps, avait été désigné comme secrétaire central pour la Suisse romande un ancien communiste, Diacon, qui avait fait des séminaires à Moscou, et qui avait l'air d'être assagi, mais qui n'était qu'un camouflé, comme la plupart de ces anciens communistes. Et ils ont voulu imposer un autre communiste, qui était Louis Huissou. Et alors, le diacon prend des tactique autoritaire et décide qu'au secrétariat il y aura huit sous communistes, et nous, les gars du bâtiment, nous disons non. Alors ils viennent pour l'imposer.
On est en cette histoire avec les communistes, c'est dans quelle année ça? C'est au tout début.
Non, c'était après la guerre, vers 49, je crois, d'accord. Quelque chose comme ça. Et alors, le diacon organise une expédition depuis Zurich avec l'ancien secrétaire local, Louis Diacon, le caissier central et un secrétaire central du bois, Fonius. Et ils disent, nous descendons à Genève pour prendre possession du secrétariat, nous serons là tel moment. Bien. À l'époque, nous étions organisés quasiment à
99% avec une organisation de chantier, délégué de chantier, etc. Immédiatement, comme évidemment on était au courant de ça, il y avait eu des polémiques, etc. Immédiatement, j'alerte quelques copains de chantier pour qu'ils arrivent. Alors bon, les gens arrivent, le diacon intervient vers chaque employé, nous étions jeunes, potes, et il demande à chacun un rapport, quelle est votre activité, vos fonctions, etc. Bon. Puis, au bout d'un certain moment, j'entends dans les escaliers des gros souliers. Et puis viennent les gars. Puis ils disent aux gens, qu'est-ce que vous faites là? Pas d'accord. Allez, dehors. Et ils ont pris les types, la délégation du comité central, du secrétariat central, ils les ont pris et ils les ont foutus dehors. Mais à tel point que, par exemple, il y en a deux qui sont descendus sur les reins. Ils ont retrouvé leur serviette, leurs lunettes, et le tue en bas des escaliers. C'était liquidé. Moi, j'étais resté dans mon bureau. Je n'avais rien vu, je n'avais rien entendu, je suis resté. Puis au bout d'un moment, je ressens un coup de téléphone. Alors... on me dit alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, à la suite des assassinats, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai rien à faire. Alors, il dit, écoute, on est au bailli, c'était juste à la champ de couler. Il faudrait voir, enfin, qu'est-ce qu'on veut faire? On plainte, etc. Alors, une petite précision. J'avais avisé la police. À l'époque, on savait qu'on était en grosse bagarre avec les communistes. Et alors, j'avais avisé